l'écoute de Radio France Internationale. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Il est 20h à Paris, 21h à Khartoum.
Adrien Delgrange.
Au sommaire de cette édition internationale, pour aider l'Ukraine à faire face à l'ennemi russe, l'Allemagne débloque une aide militaire de 3 milliards d'euros. L'armée israélienne demande ce soir aux habitants du sud de la bande de Gaza d'évacuer la zone avant de nouvelles frappes aériennes. Le Mexique est aussi à la une après la découverte d'ossements humains dans une fosse clandestine. Des avions au-dessus du ciel londonien, reprise progressive des vols à Heathrow après un incendie maîtrisé. Et puis juste après ce journal, ici l'Europe, Caroline de Camaret reçoit Nadia Calvino, la présidente de la Banque européenne d'investissement. Mais tout d'abord, l'actualité soudanaise. Après la reprise du palais présidentiel dans la journée par l'armée soudanaise, le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, affirme ce soir qu'il n'y aura pas de négociation avec les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, tant qu'ils ne se retireront pas et ne déposeront pas les armes. Déclaration diffusée il y a quelques instants par l'armée soudanaise. Après 3 mois de blocage, l'Allemagne a annoncé ce vendredi avoir approuvé une nouvelle enveloppe d'aide militaire d'un montant de 3 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Une aide qui s'ajoute aux 4 milliards d'euros d'aide militaire qui était déjà prévue dans le budget 2025 pour Kiev. Une preuve de l'engagement européen et ce à quelques jours de pourparlers entre Washington, Moscou et Kiev en Arabie Saoudite. Romain Le Maresquier.
Après 3 mois de blocage de la part du chancelier sortant Olaf Scholz, qui avait émis des réserves quant à cette aide étant donné la situation budgétaire du pays, la commission budgétaire du Bundestag et la chambre basse du Parlement ont donc donné leur feu vert à cette nouvelle aide militaire de 3 milliards d'euros en faveur de Kiev. Un feu vert donné le jour où le Parlement allemand a également donné son feu vert à la réforme du frein à l'endettement. Désormais, l'Allemagne dispose de nouvelles marges de manœuvre pour financer son réarmement et octroyer des prêts. Cette aide supplémentaire doit permettre à l'Ukraine de se fournir immédiatement en munitions et lui permettra d'obtenir plus d'armes qui doivent encore être produites dans les mois à venir, notamment des systèmes de défense antiaérienne. Par ailleurs, les autorités allemandes ont tenu à rassurer l'allié américain en confirmant sa commande d'avions de combat F-35, mettant ainsi un terme au débat qui agitait la presse allemande ces derniers jours. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, Berlin avait lancé un projet d'achat de 35 F-35. Mais si l'Allemagne a bien confirmé cet achat, son futur chancelier, le conservateur Friedrich Merz, a déjà annoncé que désormais, et si possible, Berlin achèterait en priorité du matériel européen.
Et alors que des pourparlers sur la guerre en Ukraine doivent débuter lundi en Arabie Saoudite, aucun contact direct n'est prévu entre les délégations ukrainiennes et russes. Les délégations vont s'entretenir avec les États-Unis dans des salles séparées. L'actualité au Proche-Orient, ce sont ces bombes israéliennes qui continuent de tomber sur Gaza. Des centaines de milliers de Gazaouis ont à nouveau été forcés au déplacement. Selon la défense civile de Gaza, au moins 500 personnes ont été tuées dans l'enclave depuis la reprise de ces bombardements israéliens il y a maintenant 4 jours, et ce, en violation de l'accord de trêve. Ces frappes semblent n'épargner personne, ni civils, ni travailleurs humanitaires. Oriane Verdier, des bâtiments des Nations Unies ont notamment tué un employé bulgare.
Paris a exprimé aujourd'hui sa consternation en annonçant que 2 Français employés de l'ONU avaient été sérieusement blessés dans l'explosion. L'attaque remonte à mercredi. Selon les Nations Unies, un engin explosif a été largué ou tiré sur le bâtiment et a explosé à l'intérieur. Le site onusien avait déjà été endommagé la veille par des frappes de l'aviation israélienne alors que sa localisation avait été transmise à l'armée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué par la mort de l'employé bulgare du bureau de l'ONU pour les services d'appui au projet. Il a réclamé une enquête complète. Le directeur exécutif de l'agence onusienne touchée a affirmé que l'explosion n'était pas un accident. Le bâtiment était très connu et il était dans un endroit isolé, sans autre construction à côté. Londres, dont un ressortissant a également été blessé, exige une enquête indépendante et transparente. Israël a assuré enquêter sur les circonstances de l'incident. Plus tôt, l'armée israélienne a accusé le Hamas, affirmant qu'aucune activité opérationnelle n'avait eu lieu dans la zone. De son côté, le mouvement islamiste palestinien accuse Israël de mener une politique systématique visant des civils, des travailleurs humanitaires et des secouristes.
En Turquie, l'opposition revendique ce soir 300 000 manifestants à Istanbul. C'est le chef du principal parti de l'opposition qui l'affirme. Et ce, quelques jours après l'arrestation du maire de la ville d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principal opposant à Recep Tayyip Erdogan. Par ailleurs, on nous signale des incidents à Izmir entre manifestants et policiers. Le Mexique s'émeut d'une macabre découverte dans l'état de Jalisco. Dans un ranch, les membres d'une association civile de recherche des disparus ont trouvé une fosse clandestine. Des ossements, des traces de crémation, ainsi que plus d'un millier d'objets personnels comme des vêtements, des sacs ou encore des chaussures ont été retrouvés. L'affaire passe maintenant aux mains de l'État fédéral. Gwendolina Duval est à Mexico.
Dans sa toute première conférence de presse depuis le début de son mandat, Alejandro Gertz Manero, le procureur général de la République, a fait le point sur les éléments à sa disposition. Il pointe de nombreux manquements de la part des autorités locales. Le ranch avait fait l'objet d'une opération de sécurité en septembre 2024, durant laquelle 10 personnes ont été arrêtées. Mais jusque-là, le lieu n'avait jamais été fouillé, ni même sécurisé. Ces défaillances dans les enquêtes sont communes au Mexique et font vivre un véritable parcours du combattant aux victimes et à leurs familles pour obtenir la vérité et la justice. Face aux critiques, ces derniers jours, la police du Jalisco a donc ouvert en ligne un inventaire des affaires personnelles récemment retrouvées pour inviter les personnes qui les reconnaîtraient à se manifester. Pour faire preuve de transparence, les autorités ont aussi ouvert la scène de crime au collectif de recherche de disparus qui dénonce régulièrement les faiblesses de la médecine légale et des processus d'identification des corps. Alors que le pays compte plus de 120 000 disparus, le gouvernement mexicain a déclaré que la recherche et l'identification des victimes seraient une priorité. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
21 mars, première journée internationale dédiée aux glaciers. À cette occasion, en France, la commune de Bourg-Saint-Maurice, célèbre station de ski dans les Alpes françaises, accueille le festival Agir pour les glaciers. Pour freiner le phénomène, l'État français veut instaurer une protection forte de ces glaciers. Explication de Jean-Baptiste Bosson, il est glaciologue.
Malheureusement, certains glaciers sont parfois attaqués à la pelleteuse, notamment par des compagnies minières. Il y a des fois des destructions directes à l'explosif. Et donc dire qu'on veut mettre les glaciers en protection forte, c'est dire qu'on ne veut pas leur rajouter des destructions directes supplémentaires. Alors c'est pas ça qui sauvera les glaciers du tout du climat. Les glaciers fondent à cause du dérèglement climatique. Par contre, ça empêchera des menaces supplémentaires. C'est un coup d'avance pour protéger aussi la nature du futur qui va naître du retrait glaciaire. Quand on malheureusement perd les glaciers, on va continuer à les perdre un peu ou énormément. Et on a des nouveaux écosystèmes comme des nouveaux lacs, des nouvelles rivières, des nouvelles forêts qui sont en train de naître dans ces zones et en fait qui ont une immense valeur écologique, contribuent un peu à séquestrer du carbone. Pour le cycle de l'eau, c'est les réserves d'eau douce du futur. Pour la biodiversité, c'est les sanctuaires ou les refuges du futur. Donc si on les protège ces zones dès maintenant, on laisse la nature évoluer et en fait on maximise les fonctionnalités écologiques et le fait que dans les territoires, on reste dans des territoires habitables parce qu'on a de la fraîcheur, on a de l'eau, on a de la biodiversité et qu'on peut vivre.
Jean-Baptiste Bosson, au micro RFI d'Igor Strauss. Dans l'actualité politique en France, alors que François Bayrou bouclera ce week-end de ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement, la semaine a été rude pour son cabinet et sa majorité relative au Parlement, entre pugilat sans fin sur l'Algérie, censure d'une partie de la loi d'orientation agricole et puis les revers concernant des pans entiers du texte sur le narcotrafic. La pente est raide, même si Aurélien Devernois, son poste ne semble pas menacé.
Vous l'avez compris, nous sommes victimes d'une panne informatique.
Le coup de la panne au moment de voter un volet cybersécurité de la loi narcotrafic comme un résumé de cette semaine agitée pour le gouvernement. Dans l'alliance gouvernementale, certains n'hésitent plus à critiquer la méthode Bayrou, avec des ministres se tirant dans les pattes et un patron aux convictions floues. Si Michel Barnier ou Gabriel Attal avaient subi la moitié des revers actuels, ils auraient été renversés, estime un député macroniste. Mais la période est différente, poursuit-il. François Bayrou bénéficie du contexte international et de la volonté de stabilité des Français face aux menaces extérieures. Reste que les députés du camp gouvernemental ménagent leurs efforts. Hier soir, lors de l'examen de la loi narcotrafic, beaucoup étaient aux abonnés absents. quand on sait qu'on va se faire battre par les alliances entre l'extrême droite et la gauche, on ne se déplace même plus, reconnaît un autre parlementaire. Une impression de flottement renforcée par la quasi-absence de projets de loi venus du gouvernement, mais aussi par la lutte sans merci entre l'Assemblée et le Sénat qui poursuivent des agendas politiques parfois opposés et bloquent les textes adoptés. François Bayrou n'a pas de cap et ne maîtrise pas grand-chose, juge un socialiste, et ça commence à se voir.
Et puis, juste avant de retrouver Caroline de Camaret, Ici l'Europe vous annonçait la reprise progressive à l'heure actuelle des vols à l'aéroport d'Heathrow, l'aéroport londonien. RFI à Paris, 21h10.